Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce dernier Culture Média de la semaine. Évidemment, on sera là lundi. Au menu aujourd'hui, 2 heures de médias et de culture au sens large et très large, vous le savez, avec le journal des médias, le journal de la culture. On va également parler musique. Et puis, on va retrouver Mathieu Charrier en direct de l'Alpe d'Huez avec une énorme surprise. Je ne vous dis que ça, beaucoup moins joyeux. Notre infomédia, viol, prostitution, des rats morts dans l'eau courante. Et tout ça au sein d'une institution respectable de la République, l'aide sociale à l'enfance, aide destinée aux familles en grosse difficulté. Elle permet aux mineurs d'être accueillis en foyer ou en famille d'accueil. Et pendant un an, les équipes de zone interdite se sont infiltrées dans plusieurs foyers en caméra cachée. Avec nous, sa présentatrice Ophélie Meunier et Adeline, 18 ans, qui a vécu là-bas et qui témoigne. C'est grave d'aimer le football? C'est la question à laquelle répondent Laurent Kouchner et Hervé Matou, présentateurs du Canal Football Club. Ils sont allés à la rencontre d'intellectuels et de scientifiques pour lever leurs doutes sur le football, car ils étaient passionnés. Ils aimaient comment on peut être passionné de foot alors qu'on a fait autant d'études. C'est totalement contre-intuitif, vous allez entendre ça. Et puis enfin, avec nous en direct, le roi des youtubeurs, Norman, 12 millions d'abonnés sur sa chaîne, 2,3 milliards de vues cumulées, 7 millions d'abonnés sur Twitter, d'ailleurs vous pouvez nous suivre sur Twitter, 6 millions sur Instagram, 4 millions sur Facebook, et il remonte sur scène, et c'est très drôle. Et attention, pas d'image YouTube, va comprendre. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, vous pouvez nous voir sur europe1.fr. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Comme chaque jour, on commence avec votre journal des médias. Qu'est-ce que vous avez au menu ce matin?
Le business du petit Grégory, le vrai faux retour de Friends, un tout nouveau The Voice, un parasite XXL et des bouleversements en prévision du côté de France Télévisions.
Mais avant tout ça Cyril, un mot sur les audiences d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télévision?
Ils ont regardé TF1, ils ont regardé la série Peur sur le lac. Il y avait 4 856 000 téléspectateurs hier, cela représente 22,6% du public. C'est une baisse, c'est un très bon score,
c'est quand même
en baisse par rapport à la semaine dernière. Deuxième position, France 2 avec le magazine Envoyé spécial. On vous en parlait hier, notamment consacré au bruit.
Comment?
C'est une blague sur le bruit.
Ouais, exactement.
Excusez-moi, j'y étais pas. Pardon, Philippe. Faut qu'on continue à bosser pour le spectacle, là, tous les deux.
Non, mais hier, j'en ai vu un gros morceau d'envoyé spécial sur le bruit. C'est pour ça que je me suis permis.
Il est un peu sourd.
Ouais.
Il y avait 2 792 000 téléspectateurs devant Envoyé spécial. Et troisième position, pour M6, la série FBI a rassemblé 1 914 000 personnes.
Cyril, l'affaire Grégory qui n'en finit pas d'inspirer les producteurs.
Après la série documentaire sur France 3, après la série documentaire sur Netflix, voilà que TF1, qui a flairé la bonne affaire, a décidé de se lancer dans la production, cette fois d'une fiction, d'une affaire qui passionne toujours les Français. Selon Télé Loisirs, La Une va lancer une collection de mini-séries consacrées aux affaires criminelles. Et pour commencer, j'allais dire évidemment, la chaîne a pensé à l'affaire du petit Grégory. Et le site de l'hebdomadaire révèle déjà le casting. On y retrouvera le comédien Guillaume de Tonquédec dans la peau d'un gendarme, Blandine Bellavoir, Guillaume Gouix dans la peau des époux Villemain. Il y aura également Gilbert Melki, Thierry Godard, vu dans la série Engrenage, et même Michael Youn dans la peau d'un journaliste proche de Bernard Laroche, longtemps considéré comme le principal suspect de cette affaire, toujours non résolue, je le rappelle. Reste à savoir comment cette histoire connue de la France entière sera adaptée en version fiction.
Et surtout, reste à savoir s'ils vont désigner ou pas un coupable. Le retour de Friends, alors c'est fake news ou c'est véritable projet?
C'est vrai que depuis le temps qu'on en parle, on commence à avoir des doutes. Il n'y a pas si longtemps, c'est Jennifer Aniston qui avait elle-même remis une pièce dans la machine avec une simple photo postée sur Instagram. Pour la première fois depuis la fin de la série, l'ex Rachel avait réuni les 6 ex-friends pour faire un polla, une photo likée plus de 15 millions et demi de fois. Je serai toujours là pour toi. Bon, bah, ça reste encore à démontrer, car depuis quelques mois, la chaîne HBO a initié un projet pour faire renaître Friends, sans qu'on sache exactement sous quelle forme. Tout juste qu'il ne s'agira pas véritablement d'un nouveau Friends, mais peut-être tout simplement d'une émission où les 6 seraient réunis. Bref, des idées très vagues, mais qui ne semblent pas vraiment avancées, car.
C'est quoi? Un dîner d'anciens?
Oui, c'est ça. On retrouve ses potes.
Ouais, c'est quoi cette idée?
On retrouve ses potes, mais on se fait payer. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui dans les négociations, c'est l'argent. Le fossé serait très large entre les demandes des six acteurs et ce que serait prête à payer la chaîne câblée HBO. Et les négociations, ça les connaît. À l'époque de la série, les six comédiens s'étaient mis d'accord pour toujours faire front uni et gagner exactement la même chose. C'est ainsi que lors de la 10e et dernière saison, ils avaient chacun empoché $1 million par épisode. Il y avait eu 18 épisodes cette année-là.
Cyril, on reste avec TF1 qui lance demain sa nouvelle édition de The Voice.
Une édition 2020 revue et corrigée, des règles plus simples, des nouveaux coachs, une véritable salle de concert pour accueillir les émissions en direct. TF1 annonce un retour aux sources pour ce qui a longtemps été un de ses programmes phares. Louise Bernard a rencontré Marc Lavoine, un des nouveaux jurés de cette édition, et nous explique pourquoi il a accepté cette begin avec The Voice.
Je savais que j'avais ni livre, ni film, ni de pièce de théâtre. Parce que quand on s'engage sur une pièce de théâtre, c'est 3 mois, plus les répétitions, plus la tournée. Et là, c'est impossible de faire ce genre de... En revanche, être sur scène, faire de la chanson tous les soirs en tant que chanteur avec un public et se retrouver dans l'atelier The Voice où on ne voit pas les caméras, on voit des artistes, des équipes de prod, des équipes artistiques qui travaillent sur un projet, franchement, c'était cohérent. Aussi, j'ai retourné la question en me disant, je ne sais pas si j'ai quelque chose à apporter aux gens, mais peut-être un petit truc. Et surtout, je vais rencontrer des jeunes ou des moins jeunes, mais qui représentent mon pays.
C'est un peu bizarre.
Marc Lavoine en quête d'un porte-drapeau. Il sera accompagné de Lara Fabian, Amel Bent et Pascal Obispo, pour qui il s'agit d'un retour. Le chanteur s'était déjà installé dans les fameux canapés rouges et après une pause, le revoilà dans le jury. Il va devoir se confronter à une vieille règle qui fait son retour cette année. Expliquer aux candidats refusés pourquoi le coach ne s'est pas retourné.
C'est la chose la plus difficile de ne pas se retourner. C'est très difficile. Mais la chance qu'on a... c'est de pouvoir quand même justifier pourquoi on se retourne pas, de manière technique ou de manière émotionnelle ou en fonction des correspondances musicales, vocales. Donc on a la chance cette année de pouvoir leur dire, et ça c'est important.
Important de s'expliquer, une chose importante aussi dans The Voice, c'est d'être dans l'empathie, même quand ils ne se retournent pas, les jurés sont priés d'être doux et constructifs, voire drôles s'ils le peuvent. C'est en tout cas cette facette que Lara Fabian a envie de montrer au public. On l'écoute, elle est au micro de Louise Bernard.
Peut-être que les gens ne le savent pas forcément, que j'ai un côté un peu joueur, clown. Donc moi, je me suis servi beaucoup de mon humour, de la faculté que j'ai de rire de moi, par exemple, rire de moi-même. Et je suis quelqu'un qui peut s'émouvoir très facilement aussi. Enfin, là, il y a eu un moment qui était très très fort, qui est lié à un membre de ma famille, à ma maman. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un moment très 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 fort d'émotion que j'ai absolument pas pu gérer. Je me suis foutue complètement du fait qu'il y avait des caméras.
Le retour de The Voice, c'est demain soir, toujours sur TF1, toujours avec Nikos aux commandes, bien sûr.
Cyril, vous avez parlé de TF1, puis de HBO, puis de TF1, et là vous allez nous reparler de HBO. La semaine dernière, on avait évoqué l'adaptation du film Parasite, transformé en série pour HBO justement, et son réalisateur a donné quelques précisions.
En effet, Bong Joon-ho a profité de l'annonce de la sélection de Parasite pour les Oscars pour en dire un tout petit peu plus sur son projet. Et plutôt qu'une véritable série, le réalisateur coréen a une autre idée en tête, faire une version XXL de la dernière Palme d'Or au Festival de Cannes. Bong Joon-ho explique qu'en écrivant Parasite, il a été contraint de mettre de côté tout un tas d'idées d'histoires parallèles, notamment celles concernant le passé de ses personnages. Et c'est donc dans cette direction qu'il voudrait explorer la future série, même si le réalisateur tient à ce que ceux qui ont vu le film puissent également être surpris lorsqu'ils verront la série. Si rien n'a encore été fixé en termes de calendrier de tournage ou de date de sortie, celles et ceux qui ont adoré Parasite peuvent déjà se réjouir à l'idée de retrouver ces personnages et au moins une partie de l'intrigue.
On est en janvier, mais Cyril, vous nous annoncez déjà du changement pour la saison prochaine à France Télévisions.
Et en cause, les disparitions de France 4 et de France O prévues pour le 9 août qui vont évidemment provoquer quelques bouleversements. Il va notamment falloir caser plus de 3700 heures de programmes d'animation sur France 3 et France 5, un choix qu'on peut considérer peut-être un peu étrange alors que France 3 doit incarner la chaîne des régions, France 5 la chaîne du savoir. Néanmoins, conséquence de cette arrivée massive des dessins animés, Le Parisien révèle que La Quotidienne, l'émission du midi de France 5 présentée par Maya Loquet et Thomas Hill, va migrer vers la 2 ou vers la 3, on ne sait pas encore. Voilà des sujets que vous pourrez aborder lundi avec votre invité, Philippe. Vous recevrez Takis Candilis, numéro 2 de France Télé, grand patron des programmes.
Merci beaucoup.
Et je voulais apporter une petite correction, puisqu'hier j'ai dit que le film À mort l'arbitre avait été réalisé par Jean-Jacques Hano. Or, il a été réalisé par Jean-Pierre Mocky. Jean-Jacques Hano, lui, a réalisé Coup de tête avec Patrick Devers.
Ben, on parlera de football justement avec Hervé Matou et lui, il sait tout ça. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. Bon week-end, on vous retrouve lundi pour un nouveau Journal des médias.
À suivre l'info média du jour, on va parler d'un nouveau numéro de Zone Interdite. Dimanche, une enquête sur les scandaleuses défaillances de l'aide à l'enfance. Zone Interdite s'est présentée par Ophélie Meunier et elle sera avec nous dans un instant sur Europe 1.
9h. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est leur Philippe de l'Info Média du jour.
Trois lettres, ASE, aide sociale à l'enfance, on dit l'ASE et trois chiffres. 70% des adolescents sortent de l'ASE sans diplôme, 20% sont atteints d'un handicap physique ou mental et un SDF sur quatre est un ancien enfant placé. L'ASE est destinée aux familles qui ont de grosses difficultés matérielles ou éducatives. Elle permet aux mineurs d'être accueillis en foyer ou en famille d'accueil jusqu'à leur majorité. Et pendant un an, les équipes de zones interdites se sont infiltrées dans plusieurs foyers de l'aide sociale à l'enfance partout en France. Et c'est un documentaire exceptionnel avec des images, il faut le dire, choquantes et bouleversante, diffusée ce soir au cœur de ces foyers. Film de Jean-Charles Doria, diffusé ce dimanche à 21h dans Zone Interdite sur M6. Bonjour Ophélie Meunier.
Bonjour Philippe.
Vous présentez le magazine dont vous êtes également la rédactrice chef qui diffuse dimanche cette enquête édifiante. Question d'abord, pourquoi Zone Interdite s'est-elle intéressée à ce sujet?
Il y a un an, le réalisateur justement Jean-Charles Doria avait fait un autre documentaire pour Zone Interdite sur les mineurs délinquants et il avait rencontré dans les centres éducatifs fermés un certain nombre d'entre eux qui avaient passé leur enfance en foyer et ces mineurs lui avaient raconté des histoires assez ahurissantes sur leur vie en foyer et c'est ce qui lui a donné envie de faire ce documentaire sur l'aide sociale à l'enfance.
À côté de vous, Adeline, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez quel âge, Adeline ?
J'ai 18 ans.
Vous avez vécu cela de l'intérieur car vous avez grandi dans les foyers et familles de l'ASE jusqu'à vos 18 ans justement, jusqu'à ce que toutes les aides soient coupées et que vous retrouviez à la rue. Racontez-nous votre histoire.
Oui, alors ça a été assez compliqué parce que j'ai mis assez longtemps à décrocher un contrat jeune majeur au bout de 18 ans de placement au sein des foyers et familles d'accueil. Ça s'est pas très bien passé, franchement j'ai pas eu de chance, je suis tombée sur des familles d'accueil malsains, sur des foyers aussi malsains et je me suis battue et rebattue pour avoir cette place en contrat jeune majeur il y a 3 mois que j'ai décroché cette place et ça avance pas vraiment dans ce que j'appréhendais en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais au niveau de la part de l'aide sociale à l'enfance en fait.
Pour qu'on comprenne ce qui se cache sous les mots, qu'est-ce que vous qualifiez de malsain ?
Quand je dis malsain, c'est une grosse négativité de leur part au niveau violence physique, violence verbale, au niveau rabaissement, au niveau manque de confiance, perte de confiance
du jeune. Y compris des familles censées vous accueillir et vous aider à grandir.
Oui, voilà, parce que si vous voulez, on nous place dans des familles qui ne connaissent eux-mêmes pas du tout. En fait, on est mis vers l'inconnu, on est balancé comme dans des boîtes aux lettres, comme une lettre à la poste en fait. On est des jeunes en fin de compte considérés comme objets de la part de l'aide sociale à l'enfance, d'où aucun éducateur se soucie de nous dans l'endroit où nous sommes placés. On ne reçoit aucune visite d'éducateur. Il nous arrive des choses vraiment tristes et vraiment horribles.
Pardon de vous poser la question que tout le monde se pose. C'est quoi les choses tristes et horribles sont arrivées à vous, Adeline ?
C'est qu'on passe par des agressions sexuelles au niveau des hommes de famille d'accueil. On passe par... ça va jusqu'au viol, ça va jusque...
Vous parlez de vous ou vous parlez de récits que vous ont fait
en général et de moi-même aussi.
Et si je peux me permettre, Adeline aussi, avec qui j'ai pu parler ces dernières semaines, une forme d'esclavagisme aussi que tu nous as raconté, où quand une famille est devant une télé à regarder un film, à manger des chips, c'est que l'enfant qui est accueilli et fait le ménage toute la soirée, il faut que tout soit récuré.
C'est Cendrillon.
Oui, exactement. Une fois,
un drôle d'effet.
Effectivement, j'ai été placée dans une famille d'accueil une fois qui passait son temps à manger des chips devant la télé pendant que moi je devais me taper tout le ménage toute la journée en rabaissement tout ça.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 15 ans.
Ophélie Meunier, les journalistes de Zone Interdite ont demandé à tourner dans des foyers, ils n'ont obtenu que des refus. Résultat, ils se sont infiltrés en se faisant embaucher comme éducateurs. C'est parce que vous vouliez être infiltré à tout prix ou parce que c'est plus spectaculaire d'être en caméra cachée ?
Alors, on n'a pas eu que des refus. On a aussi, je tiens à le préciser, des foyers qui nous ont ouvert leurs portes. Et notamment, on va voir dans
le
documentaire.
On va le dire aussi ici.
Il y en a un qui nous a ouvert ses portes et où ça se passe très bien. Et c'est un bon exemple pour montrer que oui, c'est possible aussi pour les foyers de remplir leur mission de protection de l'enfance. Mais nous avons eu aussi des refus.
Ouais.
Et à ce moment-là, évidemment, pour montrer ce qui se passe, ben, on n'a pas d'autre choix que de s'infiltrer. En fait, il n'y a pas de... C'est pas un amusement pour un journaliste de faire une infiltration. C'est difficile, c'est émotionnellement compliqué, physiquement compliqué. Et on ne sait pas ce qu'on va, on va découvrir. Donc non, c'est pas, ça ne nous a pas amusé, c'est qu'on n'a pas le choix.
C'est difficile humainement, mais moi, ce qui m'a sidéré, c'est que c'est facile techniquement. Ouais. Vos journalistes sont infiltrés. Ils n'ont pas eu besoin de se donner beaucoup de mal pour être acceptés. Ils ont été embauchés sur un simple coup de fil ou en 20 minutes d'entretien, sans diplôme, sans contrat, sans donner un extrait de casier judiciaire. Comment ça se fait ?
Parce qu'il y a certainement une pénurie d'éducateurs et de travailleurs sociaux dans les foyers et que bah, y a des moments où les foyers se retrouvent avec du manque et donc bah, ils appellent des postulants un petit peu facilement, j'imagine, et ça c'est tombé sur nos journalistes et c'est comme ça qu'elles ont été embauchées si rapidement.
Et ça veut dire que n'importe qui ou presque peut devenir éducateur dans un foyer, c'est ce que vous avez ressenti, Adeline ?
Oui. Franchement, j'ai même pas de mots tellement que j'ai souffert en fait. Au sein de foyers et familles d'accueil, c'est...
Et y compris au sein des foyers, donc ils sont encadrés.
Oui, voilà.
Qui sont des organismes apparentés à un organisme d'État.
Le foyer, c'est exactement pareil que la famille d'accueil. C'est des éducateurs non professionnalisés, en fait. Ouais. Ils n'ont pas de diplôme. C'est des gens qu'on prend comme ça, tellement qu'ils sont en manque d'effectifs.
Et eux-mêmes sont violents ?
Oui, oui, oui. Oui. Il y a, franchement, pour ma part, il y a 98% d'éducateurs qui sont... pas dans leur métier, qui sont violents.
Sans rentrer dans les détails, exemple de violence que vous avez subie vous-même, Adeline ?
On nous balance contre les murs, contre les armoires, on nous frappe jusqu'à 100, ils n'ont aucune pitié.
On vous a frappé jusqu'au 100 ?
Oui, bien sûr.
Sous quel prétexte ?
Aucun prétexte. Ou alors vraiment mettre à bout l'enfant par des mots blessants pour le mettre en colère et trouver l'excuse de le frapper, c'est tout ce qu'ils peuvent faire.
Vous dites l'enfant, vous aviez quel âge à ce moment-là ?
J'avais 13 ans, 12 ans, 11 ans, 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans, 6 ans. Après, c'est différent. Je suis restée dans une famille d'accueil pendant 12 ans qui m'a maltraitée.
Adeline Ophélie Meunier, vous restez avec nous. On continue de parler de ce documentaire édifiant, faut-il le dire, qui va passer dimanche sur M6 à 21h.
Oui, la mission d'investigation Zone Interdite a enquêté sur les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Le résultat de cette enquête édifiante est à découvrir dimanche soir sur M6. Ophélie Meunier est notre invitée pour en parler. Elle est accompagnée d'Adeline, jeune fille, vous l'avez entendu, qui a souffert de ses défaillances dans ses foyers et familles d'accueil. On les retrouve toutes les deux pour en parler dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Pendant un an, les équipes de Zone Interdite ont pénétré l'univers opaque de l'aide sociale à l'enfance. Leur enquête, diffusée dimanche soir sur M6, dévoile une réalité stupéfiante. Pour en parler, nous recevons ce matin Ophélie Meunier, qui présente Zone Interdite, et Adeline, qui a été victime de toutes ces défaillances de ce système.
C'est au-delà des défaillances et des violences, on ne peut même pas tout répéter ici, tellement que c'est... dur même à entendre. À l'intérieur de ces foyers, on découvre des locaux dans un état parfois déplorable, des chambres sales, des sanitaires délabrés. Ce jour-là, vous filmez dans un foyer de Seine-Saint-Denis, même l'eau est infectée.
Pour couronner le tout, depuis quelques jours, l'eau du robinet est infectée. Une chef de service vient alerter le personnel.
Apparemment, ils ont trouvé cette l'eau, il y a un truc dans l'eau. Il y a de la merde dans l'eau, des meufs vraiment hier. Il y a de la merde dans l'eau, oui. Ça sentait quand même très fort. Et du coup, on s'est dit, peut-être qu'il y avait un rat crevé ou un truc et que ça infectait l'eau. Bah, ils avaient vu un rat, les gamins, ils avaient filmé un rat en train de courir là,
il y a quelques temps.
Ouais,
ah, ouais. Ouais, c'est vrai. Surtout si c'est un rat, c'est encore pire. Hein. Le rat, avec toutes les maladies qu'il transporte, on n'est pas dans la merde. Hein.
Le jour même, des bouteilles d'eau sont distribuées aux ados, mais rien n'a été prévu pour la douche.
Ça vous surprend, Adeline ? Ça vous fait sourire ?
Sourire et à la fois, ça me donne de l'émotion.
Rire jaune, je pense. Hein.
Ouais, je pense aussi, c'est nerveux. Parce que ça me rappelle comment c'était horrible, en fait. Et horrible n'est même pas assez élevé pour expliquer tout ça.
Ophélie Meunier, une de vos journalistes infiltrées, a arrêté l'infiltration au bout de 4 jours parce qu'elle était tabou. Mmh. Comment est-ce que les éducateurs peuvent tenir, eux également, dans ces conditions ?
On souhaite qu'ils tiennent parce que sans eux, malheureusement, ce serait compliqué. Il y en a certains, encore une fois, qui font bien leur travail et d'autres qui sont dépassés ou d'autres qui ne sont pas compétents. Il y a toutes les situations. Mais c'est une question qu'on pose en tout cas et on essaye de montrer aussi la réalité de la situation pour que chacun prenne conscience à la fois des horreurs que vivent les enfants et à la fois à quel point les éducateurs sont poussés à bout aussi et sont dépassés et sont dépourvus, en fait. Donc voilà, c'est... enfin, y a une défaillance, quoi.
Alors, vous montrez également que la situation, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les foyers n'est pas forcément dramatique à ce point partout. Le seul département qui vous a autorisé à tourner, comme par hasard, un département modèle, c'est le Bas-Rhin. Et dans ce foyer, il y a un éducateur pour 5 enfants, donc 2 fois plus que dans un foyer, par exemple, de Dijon où vous étiez infiltré. Il y a peu de turnover, c'est-à-dire que les gens restent. Une école dans le foyer, une pédagogie adaptée, des animaux en liberté, c'est presque l'idéal. Extrait.
On a un quotidien très rythmé, on sait à quelle heure on mange, à quelle heure on prend les douches, à quelle heure on va se coucher. Après, dans tout ça, on module pas mal de choses pour pouvoir prendre le plus de temps avec eux quand même.
J'ai vu dans d'autres foyers un éducateur pour 12 ou 13 enfants.
Non.
Je vous demande même pas ce que
je le ferai pas. Ça devient du gardiennage, ça devient juste surveiller pour éviter qu'il y ait un souci. Et le boulot, c'est pas ça. On les aide à grandir et c'est pas avec 12 enfants qu'on arrive à les faire grandir tous, c'est pas possible.
C'est quoi la majorité des cas? C'est comme dans le Bas-Rhin où on vous a laissé tourner, ou comme à Dijon par exemple, où on trouve des éducateurs qui gèrent des enfants sans avoir été formés, des enfants avec des troubles psychotiques sans avoir été eux-mêmes formés?
Franchement, c'est très difficile de quantifier parce que on n'a pas pu aller partout. Il y a un département, mais le ressenti, il est que de toute façon, on est là pour protéger des enfants. Et s'il n'y avait ne serait-ce qu'un seul foyer où ça dysfonctionne, il faudrait que ça change. Bon, il se trouve qu'il y en a plus d'un, puisque déjà on le montre dans le documentaire, mais bon, voilà, fort heureusement, il y a des endroits où ça se passe bien. Et pourquoi on le montre? C'est déjà, bon, voilà, faut pas stigmatiser non plus. Et deuxièmement, c'est surtout pour dire qu'avec les mêmes moyens et avec les mêmes enfants, parce que les enfants ne se sentent pas mieux hein, dans le foyer du Bas-Rhin. Ce sont aussi des enfants torturés et qui ont vécu la violence et l'horreur dans leur famille.
Oui, mais on peut supposer qu'une fois qu'ils arrivent dans le foyer, ces violences-là soient derrière
bien.
Eux.
Ouais. Donc, ça veut dire qu'avec les mêmes moyens et les mêmes enfants, c'est possible.
Des situations particulièrement choquantes sont montrées par vos équipes. Des filles de 13-14 ans qui se prostituent, des violences au sein d'établissements, on l'a dit, même des viols entre enfants, des détournements de fonds et en même temps une sorte d'omerta, comme si tout le monde savait que ça se passe et comme si personne ne disait rien.
Autre problème qui est pointé aussi dans le documentaire, c'est remonter l'information. C'est l'image d'une mare qui devient en haut une goutte d'eau en fait.
Ouais.
Et c'est ça aussi qu'il faut qu'il change. Donc des dysfonctionnements, il peut y en avoir, mais s'ils étaient correctement remontés aux autorités, peut-être qu'aussi les choses bougeraient plus.
C'est un bon sujet parmi les officiels. Il y a seul le président de la Côte d'Or, François Sauvadet, qui a accepté de vous parler. Combien d'élus avez-vous contacté avant d'obtenir un qui dise oui?
Alors, on a contacté, je ne sais pas combien, mais au moins François Sauvadet ne s'est pas défilé.
Ouais.
Et il a accepté de nous répondre. Il a eu le courage de dire, bah oui, en effet, si ces choses-là ne m'ont pas été remontées et dysfonctionnent, je vais faire le nécessaire derrière. Je pense d'ailleurs qu'il l'a déjà fait. Mais en effet, beaucoup, beaucoup, je le rappelle, malheureusement, de départements nous ont dit merci, mais on passe notre tour.
Le documentaire est diffusé dimanche sur M6, mais les députés l'ont déjà vu. Vous êtes allé le présenter à l'Assemblée nationale.
C'était un moment très très fort. Aline peut en témoigner puisqu'elle était là aussi. Tout simplement, suite à la diffusion et au témoignage d'Adeline notamment, la moitié de la salle était sous le coup de l'émotion et pleurait même. Parce que voilà, ce qu'on voit est terrible. Hein. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. On le dit pour que les choses bougent, pour que les choses changent, pour que les enfants soient protégés quand ils n'ont pas l'occasion d'être protégés dans leur famille. C'est tout.
Et il faut le dire que la misère s'ajoute à la misère. Vous avez retrouvé une ancienne directrice de foyer qui droguait les enfants à coups d'antipsychotiques pour avoir la paix, qui les frappait et qui a détourné 200 000 euros. Car, il faut le savoir, plus un foyer reçoit d'enfants, plus ils gagnent de l'argent. Il y a presque un effet pervers là-dedans.
Exemple parfait entre deux foyers où l'un, dans le Bas-Rhin, l'argent que la directrice reçoit, elle l'utilise pour mettre en place du soin pour les enfants. Et puis, une autre directrice rogne sur les activités ou les soins des enfants et où il y a eu, de la part du directeur notamment du foyer, des détournements de fonds. Et ils ont été condamnés.
Adeline, je suis encore impressionnée par votre présence à tous les sens du terme. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant de votre vie? C'est quoi vos projets d'avenir?
Franchement, en tant qu'enfant placé, l'avenir, on le voit pas.
Et vous-même?
Je le vois pas. J'aimerais en fait, moi, faire partie de tout ce système, en fait. J'aimerais, en tant qu'enfant placé qui a vécu tout ça, je veux qu'aucun autre enfant placé au jour d'aujourd'hui ne vive ce que j'ai vécu. N'empêche, tous mes petits frères et sœurs qui sont placés, je ne veux pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Sinon...
D'une certaine manière, vous voudriez travailler auprès d'une association, par exemple, et vous servir de votre expérience pour faire progresser les choses?
Oui, bien sûr.
Ou est-ce que vous imaginez qu'un métier normal?
Non, si pas forcément, dire, ordinaire... mais En fait, j'aimerais lancer là-dedans parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est dans ma tête, c'est le passé souffrant de tout ça. Donc j'aimerais faire bouger les choses pour bouger un peu ce qui reste coincé dans ma tête. Et j'aimerais surtout améliorer ce qui n'est pas organisé au sein des aides sociales à l'enfance.
Merci beaucoup Adeline, merci pour votre témoignage et merci beaucoup Ophélie Meunier pour la force de ce doc. Ça s'appelle « Mineurs en danger, enquête sur les scandaleuses défaillances de l'aide sociale à l'enfance ». Doc signé Jean-Charles Doria, diffusé ce dimanche à 21h dans Zone Interdite. Vous ne pouvez pas le regarder, il faut évidemment le podcaster. Merci d'avoir été avec nous en direct et avec cette franchise, toutes les deux.
Nos prochains invités vont nous parler d'un documentaire diffusé sur Canal+, avec ce titre « C'est pas grave d'aimer le football », ça va en rassurer plus d'un. Et c'est Hervé Matou et Laurent Kouchner qui nous en parlent dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Hervé Matou et Laurent Kouchner.
Bonjour Hervé Matou.
Bonjour.
Journaliste, présentateur du CFC sur Canal+, c'est le Canal Football Club à côté de vous. Laurent Kouchner, bonjour Laurent.
Bonjour.
Réalisateur, et vous venez pour un documentaire tous les deux, j'aime beaucoup ce titre, c'est pas grave d'aimer le football. C'est sur Canal dimanche à 21h, tout part d'un doute. Dès le début du doc, quand vous êtes avec Denis Podalydès, Hervé Matou, Podalydès, immense comédien de la Comédie Française, doublé d'un érudit, lecteur compulsif, une référence dans le monde de la culture, et vous le faites un aveu. Au niveau du foot, vous êtes en plein doute. Ce sont quoi vos doutes, Hervé Matou ?
Je pense que ce sont les doutes qui traversent tout un chacun, qui se consacre à une activité pendant 30 ans, une activité aussi décriée que peut être le football.
Ouais.
Et donc quand on baigne dedans depuis longtemps, ce qui est mon cas, à un moment donné, quand on voit toutes les scories qui traversent le foot, la violence, la triche, la corruption, le racisme qu'on lui attribue également, parfois l'homophobie, etc., on se dit, est-ce que j'ai consacré ma vie professionnelle à un sport de bœuf? Voilà, je pense qu'on est tous, à un moment donné dans notre vie, dans une interrogation. Cette interrogation, très honnêtement, je l'ai un peu surjouée parce que c'est telle qui est le point de départ du documentaire. Mais oui, fatalement qu'elle me traverse.
Vous tournez vers Laurent Kouchner. Laurent, comment vous êtes répartis les rôles? Qu'est-ce qu'on voit dans le doc?
Alors d'abord, Hervé, effectivement, avait ses doutes. Et moi, il fallait que je fasse avec ça. Il fallait voir comment on allait répondre à ces questions.
Il a été mon psy.
Ouais. Avec bonheur. Et donc, on a décidé d'aller voir des gens, des intellectuels, passionnés de foot, mais pas forcément, surtout qui s'intéressent au foot en tant que sujet d'étude,
ouais,
et qui ont un regard qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre sur le jeu. Pourquoi ce jeu, qui est le jeu le plus pratiqué sur la Terre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'y intéresse d'une certaine manière. Donc c'était ça un peu aussi la manière. Et comment on s'est répartis les rôles? Tout simplement avec Hervé qui allait voir ses intellectuels et moi qui essayais de donner du sens et mettre en image tout ça.
Alors pour vous sentir moins seul, Hervé Matou, vous êtes appuyé sur une autre figure tutélaire, l'ancien gardien de but du Racing universitaire algérois, un certain Albert Camus, document.
Pour moi, en tout cas, je n'ai connu que dans les sports d'équipe au temps de ma jeunesse cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités.
Ça, c'est une phrase qu'on a tous lue.
Ouais.
C'est un gros cliché du foot, mais on a dégoté le document où il le dit dans une émission de télé.
Et je précise pour les plus jeunes que Camus a été ensuite prix Nobel de littérature, le plus jeune de l'histoire, à 44 ans. Alors vous êtes déplacé, notamment au Brésil, pays phare du foot, faut-il le dire, ou à Rio, vous avez rencontré un anthropologue, il s'appelle Roberto de Mata. Il a, lui, avant de s'intéresser au foot, étudié les rites des tribus amazoniennes. Et c'est pour ça que ce doc est très intéressant, parce que c'est des regards complètement différents qu'on n'avait jamais vus. Ensuite, il se penche sur les supporters de foot et les footballeurs, et il a une thèse, il dit « Le football est aussi populaire et provoque ce déchaînement de passion, car il récuse ce qui est une part de notre humanité, l'usage des mains. » Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire jouer avec les pieds?
C'est vrai que le foot, on a plutôt que des doutes, finalement, on interroge notre amour pour le foot. Voilà. Pourquoi on aime ce sport qui a décidé de se rendre la vie compliquée? Nous sommes des homo sapiens qui travaillons avec les mains, enfin, c'est ce qui nous caractérise par rapport aux animaux. Et puis à un moment donné, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, les gens se décident de faire un sport où ils n'utilisent pas ce avec quoi on est le plus habile. C'est quand même étrange. Et on fait un sport, on se passionne pour un sport où il peut ne pas y avoir de points, il peut y avoir des 0-0. Donc tout ça est quand même assez étonnant. Il mérite qu'on entende des paroles qu'on n'entend pas finalement assez rarement. Des gens qui nous expliquent pourquoi.
Vous faites parler le sociologue Albrecht Sontag. Il est de quelle nationalité ?
Il est franco-allemand.
Ouais. Il a une thèse passionnante parce qu'il explique, lui, exactement comme vous venez de dire, mais à sa manière, que le football consiste en fait, c'est même une observation, en une succession de ratages.
Le football, c'est un jeu où 22 personnes essayent de faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Il y a échec sur échec. Et l'action qui réussit vraiment, c'est l'exception. La règle, c'est le ratage. Et donc, c'est un jeu pendant lequel celui qui est venu voir son spectacle favori ne fait que souffrir. Avec quelques ponctuations de jubilation quand ça se passe bien. Donc, c'est un jeu qui soude dans la souffrance.
Vous souffrez, Laurent Kouchner, quand vous regardez un match ?
Bah, comme tout le monde, forcément.
Hervé ?
Non, mais oui, mais justement, c'est ce que vient de dire Albert Sontag, c'est assez puissant, parce que finalement, c'est le symbole de la vie. Quoi. Voilà, ouais. On sait qu'on va mourir, on se prend plein d'échecs dans la gueule toute notre vie, mais les petits moments furtifs de bonheur suffisent à nous faire survivre. Le foot, c'est ça.
Voilà, et il faut le dire, ça s'applique au foot, ça ne s'applique pas à tous les sports. Par exemple, au basket, il y a panier sur panier, on ne voit que des gens en train de réussir. Au foot, on ne voit que des gens en train de rater. On va marquer une pause et je vais juste dire quelque chose parce que j'ai appris un truc absolument dingue, c'est pourquoi dans le foot, il y a une mi-temps, vous racontez l'origine. On est dans 1840 et des poussières, ça se joue à Cambridge, il y a d'autres collèges, ils font des matchs et en gros, chaque collège a sa règle. Et voilà ce qu'ils inventent, ils font une partie de match avec la règle de Cambridge et une autre partie de match avec la règle, par exemple, de l'école d'Arrow. Et entre les deux, ils font la mi-temps. Et c'est nous ça. Aussi, on marque une pause.
Dimanche à 21h, Canal Plus diffusera C'est pas grave d'aimer le football, documentaire inédit de Laurent Kouchner et Hervé Matou, qui sont nos invités. On les retrouve pour continuer à en parler dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Pourquoi le foot est-il le jeu le plus pratiqué sur Terre ? Dans le documentaire C'est pas grave d'aimer le football diffusé dimanche soir sur Canal+, on tente de répondre à cette question en parlant foot, mais aussi théâtre, politique, philosophie, danse et même musique. Documentaire réalisé par nos invités Hervé Matou et Laurent Kouchner.
Et on en parle avec des interlocuteurs d'un sacré niveau, et des sociologues, des philosophes, un chorégraphe, Laurent Kouchner. Quand on fait parler, et Hervé Matou, quand on fait parler avec ces interlocuteurs, vous les avez fait asseoir non pas dans leur salon ou dans un hôtel impersonnel, comme ça se fait dans beaucoup de documentaires, mais devant une bibliothèque. Qu'est-ce que vous voulez montrer avec cette image-là ?
Alors oui, quelquefois, pas toujours
ouais.
quand même.
Ouais. Bah, il y en a dans des stades aussi.
Oui, il y en a dans des stades. Bah, la bibliothèque, parce que évidemment, ça correspond aussi à ce qu'il représente.
Enfin, ouais. voilà, parce qu'il y a des livres, Philippe Vandel, dans la bibliothèque.
Oui, bien sûr.
Des livres sur le foot, il y en a aussi. Et ouais. Il y en a de plus en plus. Parce que aujourd'hui, en fait, c'est aussi ça qui nous a permis de faire ce documentaire. On peut réfléchir au foot sans avoir honte. Pendant très longtemps, c'était un peu honteux et ces intellectuels pouvaient un peu se cacher aussi pour faire part de leur passion.
Exactement. Vous faites répondre ces intellectuels et ces scientifiques, par exemple, à cette question. Pourquoi mettons autant d'affect sur des joueurs dont les actes n'auront finalement aucun impact sur notre vie ? Et alors, j'ai appris quelque chose, parce que je l'avais déjà observé. Pourquoi est-ce qu'on soutient quasiment toute sa vie la même équipe de foot alors qu'on a les goûts musicaux qui changent ? On n'écoute plus la musique qu'on écoutait quand on avait 10 ans.
On peut changer de femme.
Ouais, on peut changer, on peut voter
ou de mari.
De vote, etc. Mais pas le club de foot. Que se passe-t-il dans le cerveau d'un supporter ? Et vous êtes allé avec le professeur Thiago Bortolini, chercheur en neurosciences qui travaille en collaboration avec le CNRS français. Qu'est-ce qu'il vous a montré ? Qu'est-ce qu'il vous a enseigné ?
Ce qu'ils ont observé, et c'est une recherche qui débute, hein, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, c'est que les zones qui rentraient en interaction dans le cerveau lorsqu'on était supporter d'une équipe de football et quand on interagissait avec les autres supporters, étaient les mêmes zones qui rentraient en action lorsqu'on était dans des relations familiales. Autrement dit, quand vous supportez une équipe, c'est comme si vous supportiez votre famille.
Ouais. Et ses enfants, surtout, ce qu'ils montrent. Et on ne change pas d'enfant en cours de route.
Non. C'est vrai que c'est assez passionnant parce qu'on le voit en IRM.
On voit les zones du cerveau qui s'allument. Alors vous êtes également intéressé au côté sombre du foot. Normalement, ce qui se passe dans les stades avec les foules, le sociologue Christian Bomberger explique que le stade, c'est le dernier lieu en Occident, pas en Occident, mais dans notre monde moderne, au XXIe siècle, où on est libre, où on peut se lâcher, dit-il, se brocarder de manière anonyme. Hervé Matou, vous pensez quoi des matchs arrêtés à cause d'insultes homophobes ?
Ah là, vous me mettez une question qui mériterait 25 minutes de débat. Hein, ouais. J'imagine que j'ai 30 secondes.
Ouais.
Non, mais en tout cas, ce que dit Christian Bomberger, c'est qu'il ne faut pas toujours prendre ce qui se dit au pied de la lettre. Et que la fonction carnavalesque du foot, elle est très importante. Au-delà des... Sur les sur les sanctions contre les crimes homophobes, on a bien compris que c'était une campagne quelque part. Ça a duré l'espace de 15 jours et puis ensuite c'est reparti. On entend encore des chants homophobes ou considérés comme tels.
Pardon, si vous êtes avec vos enfants, enlevez-les du poste, mais vous allez à Marseille, on entend Paris, on t'encule du début à la fin du match.
Il y a Paris l'inverse, donc voilà. Ouais. Donc en fait, on voit beaucoup aujourd'hui de clubs qui veulent bloquer les banderoles dans les stades, etc. Et on se rend compte que lorsqu'elles ne sont pas totalement hors la loi, elles sont extrêmement importantes. Et dans l'histoire du foot, elles ont toujours joué un rôle, y compris politique, parfois. En Argentine, il y a eu des cris contre la dictature argentine pendant la Coupe du Monde en 78. Donc, il ne faut pas vouloir bloquer cette parole populaire, effectivement. Et puis, il faut accepter ce moment un petit peu de échappatoire du football, sans bien sûr cautionner toutes les violences qu'on peut voir parfois dans les stades.
Voilà, je voulais parler de plein de choses avec vous, notamment sur les énormes coups que vient de faire Canal. On vous disait mort pour le foot, vous allez récupérer des matchs de Ligue 1, des matchs de Coupe d'Europe. Vous viendrez parler du CFC, ça continue le CFC à la rentrée le dimanche.
Oui.
Vous l'espérez, vous le savez pas. Mais en tout cas, on est très contents. C'est pas grave d'aimer le foot, c'est pas moi qui le dis. Même si je le dis, c'est Hervé Matou et Laurent Kouchner. Ce doc passe sur Canal Plus dimanche à 21h. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci également pour le jeu sans ballon.
Dans un instant, c'est notre heure culture, mais tout de suite place au rat d'auteur avec votre duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston-Dreyfus.